6 questions et réponses avec le Vénérable Sasana, 27 avril 2002. Pourquoi les bhikkhus ne travaillent-ils pas, ne serait-ce que pour subvenir à leurs propres besoins? Pourquoi faut-il qu'ils dépendent de la mendicité ou des dons?
Les bhikkhus ne dépendent pas de la mendicité, parce qu'ils ne mendient pas. Le bhikkhu ne demande rien. Il dépend des dons, mais il ne mendie pas pour les obtenir. Ça, c'est déjà une chose qui est importante. De plus, un bhikkhu ne travaille pas parce qu'il a fait le choix de ne pas travailler, tout simplement. Donc, il y a ceux qui souhaitent continuer de travailler pour gagner leur nourriture, mais en général, ils le font aussi pour gagner beaucoup plus que ça, pour s'acheter toutes sortes de plaisirs, toutes sortes de distractions, toutes sortes de loisirs. Et le moine est celui qui a fait le choix de ne plus, d'essayer de restreindre sa consommation des plaisirs. En tout cas, il a fait le choix de ne plus du tout avoir une vie ordinaire de distraction, de loisirs ou autre. Donc, pour ça, il fait moine. De ce fait qu'il n'a plus du tout besoin d'argent, il n'a plus besoin de gagner sa vie, puisqu'il n'a plus rien à s'acheter, à s'offrir. Et pour ce qui est du minimum nécessaire pour sa nourriture et ses robes, ce sont des laïcs qui lui offrent ces choses-là. Et qui sont très contents d'ailleurs de profiter de l'opportunité pour pratiquer le don et pratiquer la charité en offrant le minimum vital. Parfois d'ailleurs, c'est plus que du minimum vital, ils sont parfois très généreux. Aux moines qui paradoxalement ne leur ont rien demandé. C'est un mode de vie, c'est un choix de vie que le moine a fait et on ne peut en aucun cas lui en faire le moindre reproche que ce soit. Maintenant, si des personnes se disent c'est un peu facile de faire moine, on se fait nourrir, on se fait loger, eh bien alors je n'ai qu'une chose à leur dire, elles n'ont qu'à essayer et elles verront bien par elles-mêmes. Pas de loisirs, pas de ski. Pas d'amusement, pas de télévision, pas de musique, bien sûr, pas de sexe, pas de vêtements, en dehors de simplement du minimum, des robes, pas de coiffure, pas de maquillage, pas de bijoux, pas de montre, pas de loisirs, pas de distractions. C'est ce qu'on enlève d'un côté du balancier pour compenser ce qu'on a enlevé de l'autre côté. Qui est je prends l'image d'un balancier, si vous voulez, hein, c'est-à-dire que d'un côté il y a une apparente facilité de vie de celui qui bénéficie sans avoir d'efforts à faire des dons qui lui sont faits, mais ceci est compensé par l'abandon justement de tous les plaisirs et de tous les loisirs. Et si quelqu'un souhaite tenter cette expérience, qu'il le fasse. Si quelqu'un trouve que cette vie est facile, d'ailleurs on l'appelle parfois dans les écritures la vie facile, eh bien il est le bienvenu, il y a de la place.
Le chant des oiseaux produit parfois plus de bruit que la circulation urbaine. Quels qu'ils soient, les sons sont des phénomènes auditifs, les uns au même titre que les autres. Cependant, les sons produits par les oiseaux sont généralement apaisants et aspire à la sérénité. Comment expliquez-vous cela?
Ça, ce sont uniquement des images mentales qu'on se fait, des représentations qu'on se fait. Parce que nous vivons dans un monde, dans une société très, très matérialisée maintenant, avec les transports, avec les machines. On a tendance à établir une distinction de plus en plus violente, exprimée d'ailleurs parfois violemment, entre ce qu'on appelle le naturel et ce qu'on appelle l'artificiel. Et je puis vous dire que quand vous êtes en Birmanie, par exemple, dans une salle en train d'essayer d'être attentif à la respiration, aux émotions, aux pensées, et que vous avez la horde de corbeaux tout autour qui hurlent, c'est pas plus agréable qu'un marteau-piqueur ou que la circulation automobile, en fait. Hein. Ce sont un peu des jugements de valeur qu'on fait, où il faudrait que la nature, les bruits de la nature soient enchanteresques et par définition relaxants, et que d'autres sons sont censés être beaucoup plus stressants. En fait, dans l'approche que l'on a de la méditation, en règle générale, on préfère qu'il n'y ait pas de bruit du tout, que ce soit d'une rivière, que ce soit des oiseaux, que ce soit des voitures. On préfère le silence. Et dans l'approche qui est celle de la vision directe, dans la réalité, Vipassana, même si au début il est vrai que les bruits, tous autant qu'ils sont, ont tendance à constituer une gêne, on apprend en fait à simplement les traiter comme le reste des objets du mental. Et on essaye de simplement de se contenter d'observer le son et de ne pas entrer dans la logique de répulsion si c'est une voiture, ni dans la logique de séduction si c'est par exemple un oiseau ou un son plus... le bruit d'une rivière ou des choses comme ça. On essaye de traiter à égalité finalement tous les sons, et le traitement dans Vipassana des sons consiste simplement à les connaître pour ce qu'ils sont, simplement observer le phénomène de l'audition sans aller plus loin que ça.
Le rapport sexuel est la plus grande faute des règles monastiques. Il est aussi prohibé dans les 8 préceptes. Pourquoi cet acte aussi naturel et ne procurant que de la jouissance est-il considéré comme un acte négatif ?
Il n'est pas du tout considéré comme un acte négatif. Deuxièmement, ça n'est certainement pas une chose qui ne procure que de la jouissance. Ça procure infiniment plus de souffrance dans le monde que de jouissance. Parce que pour quelques minutes d'une petite excitation nerveuse sur un nerf frictionné, il faut payer le prix d'une véritable aliénation, d'un véritable esclavage que cela représente, que de vivre avec un ou une partenaire, encore que pour certaines personnes la vie de couple se passe plutôt bien et harmonieusement, mais ça c'est déjà un cas de figure assez rare. Le plaisir sexuel engendre des comportements qui sont aberrants, des personnes qui errent lamentablement en recherche de leur proie, des personnes qui vont jusqu'à commettre l'adultère, qui vont jusqu'à commettre parfois même le crime pour satisfaire cette pulsion, satisfaire ce désir. C'est une chose qui est en effet tout à fait naturelle. Les rats font la même chose, les chiens font la même chose. C'est une chose qui est considérée comme une faute pour un moine parce que le moine est celui qui a fait le choix de s'en abstenir. Donc si le moine se livre à une copulation sexuelle, c'est qu'il n'est plus moine. C'est une faute uniquement dans le sens de manquement, dans le sens d'erreur. Faute dans le sens de, quand vous faites une faute d'orthographe, par exemple, vous n'avez pas fait une chose diabolique, une chose mauvaise, et vous n'allez pas renaître en enfer parce que vous avez fait une faute d'orthographe. Vous avez fait une chose qui n'est pas correcte et qu'il faut essayer de corriger. Donc de la même manière, lorsque le moine... un moine qui envisage une relation sexuelle s'apprête à commettre une faute, un comportement qui n'est pas correct dans la communauté des moines. Il n'a pas commis un acte, il va le faire renaître en enfer, il n'y a rien de négatif, il n'a pas commis le péché s'il a fait ça. Simplement, il s'est lui-même, par cet acte-là, destitué de sa position de moine. Personne n'oblige qui que ce soit à faire moine, et si quelqu'un a envie de développer des rapports sexuels, personne ne le découragera à le faire. Bouddha n'a jamais dit que c'était mal, que c'était renaître dans les enfers, que c'était... Il dit que c'est surtout quelque chose qui entretient les êtres dans une vie qui ne les différencie pas beaucoup des animaux, et que, en fait, le sexe génère un nombre considérable de peines, de misères et de souffrances dans le monde. Et ça, sur ce point, il a pertinemment raison. Donc le moine est celui qui, avant de faire moine, le laïc qui prend les 8 préceptes, et ensuite, bien sûr, au-delà, le moine, c'est celui qui souhaite simplement évacuer complètement cette dimension de sa vie. C'est tout. Il n'y a rien qui soit contre nature dans cela, puisque rien ne l'empêche de faire moine, et si on veut continuer la vie de laïc avec un ou une partenaire, c'est tout à fait possible. La majorité des êtres qui ont atteint l'éveil du temps de Bouddha faisaient partie de ce cas. C'était des gens qui avaient une épouse ou un mari. Donc ça n'est pas du tout incompatible. C'est une question de choix.
D'après Bouddha, les maîtres religieux qui délivrent des enseignements erronés, même s'ils sont sincères et malgré eux. Bouddha dit qu'il développe beaucoup plus d'akusala, c'est-à-dire du démérite, que les assassins qui tuent ou qui violent ou qui persécutent sauvagement de nombreuses personnes. Pourquoi ?
Ça, c'est dû au fait que quelqu'un qui commet des crimes de toutes sortes commet des actes dont la rétribution, dans la logique, sera de subir à peu près la même dose de peine et de souffrance finalement. Et donc, comme dit Bouddha, quelqu'un qui a fait ça en sera quitte pour une renaissance peut-être dans les enfers, quelque chose comme ça, et quand il aura purgé cette réserve d'akusala, à ce moment-là, bon, c'est bon, il a en quelque sorte payé sa dette, et à ce moment-là, il pourra reprendre finalement son existence, il pourra reprendre naissance par exemple dans le monde humain. L'acte que quelqu'un commet, de commettre par exemple des crimes ou des violences, est un acte qui génère de la souffrance dans les autres sans particulièrement les entraîner dans une direction quelconque. La mort peut-être, la souffrance physique, mais bon, ce sont des personnes qui expérimentent des souffrances physiques parce que elles avaient elles-mêmes par le passé donné de telles souffrances à d'autres. Donc là, nous sommes dans une logique relativement simple de l'action et de la réaction finalement, qui est la loi du karma. Tandis que lorsque quelqu'un enseigne la vérité, il donne une orientation à la vie des gens. Il altère complètement l'orientation de la vie des gens, même s'il ne leur procure pas de souffrance physique ni de souffrance mentale visible. Le fait est qu'il les oriente dans une direction, dans une destination qui est celui du rêve, croire dans la vérité absolue, le bonheur éternel, le bonheur parfait après la mort, qui est bien sûr une utopie. Et en faisant ça, il entretient et il développe un facteur qui est bien pire que la violence, la haine, qui est le facteur des vues. Lorsque nous accomplissons un acte négatif, celui-ci est peut-être accompagné de vues, de croyances, ou pas. Par exemple, lorsque quelqu'un nous marche sur les pieds, on est très énervé, on lui floque une baffe. On a effectivement commis là un acte de violence, on a donné une souffrance à quelqu'un. Maintenant, par exemple, on rencontre quelqu'un qui appartient à une communauté religieuse qui ne nous plaît pas, et on lui donne une baffe, la même baffe. Donc, physiquement, la personne éprouvera la même souffrance. Mais la personne qui a commis l'acte, dans le premier cas, a eu un acte de violence, un accès de colère qui n'était pas associé à une vue, à une croyance, et dans le deuxième cas, il a eu un accès de colère et de violence qui était associé avec les vues et les croyances. De ce fait, il a la possibilité de renaître dans les mondes inférieurs, pas la possibilité, la nécessité de renaître dans les mondes inférieurs lorsqu'il a commis des actes de violence, des actes de haine, ou lorsqu'il s'est laissé aller à des désirs incontrôlés, lorsque ceci était associé avec des vues. Mais tant qu'il commet des actes de violence, des actes de se laisser aller à des désirs incontrôlés sans que cela soit associé avec des vues, de tels actes n'ont pas la capacité, n'ont pas la possibilité de l'amener à renaître dans les mondes inférieurs. Ou en tout cas, beaucoup moins la capacité de renaître dans les mondes inférieurs. C'est pour ça que lorsqu'un être a atteint le premier stade de l'éveil, lorsqu'il est entré dans le courant, il est devenu ce qu'on appelle un sotapanna, il a abandonné les vues. Il ne peut plus agir de manière où ses actes sont associés avec des vues. Même s'il peut encore commettre des actes de violence, peut frapper quelqu'un, ou s'il peut se laisser aller à des désirs incontrôlés, le fait qu'il ne fait plus cela dans le cadre d'une croyance, d'un rite, d'une idée, d'une conception qu'il a de la vie, cela n'a pas la capacité de le faire renaître dans les mondes inférieurs. C'est pour ça que les sotapanna ne renaîtront jamais dans les mondes inférieurs. Parce que même lorsqu'ils commettent un acte négatif, celui-ci n'est pas associé avec les vues. Ce sont les vues qui ont la capacité de nous tirer vers le bas. Et quelqu'un qui, même s'il ne commet pas de violence physique, enseigne, prêche rien d'autre que des vues et des conceptions, vit dans un véritable concentré de vues. Et alors lui, à ce moment-là, va renaître très très bas, il va expérimenter des souffrances très pénibles pendant de nombreuses vies, parce qu'il entraîne d'autres personnes dans le monde des vues, et il entraîne d'autres personnes à agir en étant aveuglés par des conceptions et les vues. C'est-à-dire des personnes qui auraient en temps normal continué de vivre en faisant leur travail et en commettant parfois des actes de violence ou en se laissant parfois aller à des plaisirs, à des gabegies incontrôlées, eh bien maintenant elles vont le faire systématiquement parce qu'elles se sont laissées entraîner dans un courant religieux, dans un courant d'idéologie, dans un courant de croyance. Elles vont faire la même chose, cette fois-ci, dans le cadre d'un programme, dans le cadre d'un projet religieux ou idéologique. Et en plus, nous constatons une chose, c'est là que nous voyons que Bouddha était pertinent dans sa remarque, c'est que lorsque dans une société il y a des meurtres qui se commettent, il y a des viols qui se commettent, c'est une chose, mais lorsque dans une société il y a un grand prêtre religieux qui émerge, ou qu'il y a un grand idéologue, un grand docteur en idéologie, en doctrine philosophique ou politique, il va à ce moment-là catalyser complètement l'attention des gens, et nous constatons, l'histoire est bien là pour nous le démontrer, que les gens vont se mettre à pratiquer de telles abominations encore plus. On l'a vu ça dans les grandes conquêtes religieuses, ou dans les grandes conquêtes par de grandes idéologies politiques, ils vont se mettre à pratiquer ces atrocités encore plus. Parce que le fait d'avoir une idéologie, une croyance forte, nous donne encore plus de hargne et nous aveugle encore plus. Quand on peut encore sentir qu'on fait du mal quand on commet un viol comme ça, mais lorsqu'on commet un viol parce que ça fait partie d'un programme d'épuration ethnique qui rentre dans notre idéologie politique, on est intimement convaincu qu'en réalité, on fait le bien. Voilà pourquoi les grands chefs religieux, les grands docteurs en doctrines idéologiques et politiques diverses font infiniment plus de mal, même s'ils ne tuent jamais, même s'ils ne commettent pas de viol, ce qui reste encore à prouver souvent, ils font en fait plus de mal, paradoxalement, que s'ils commettaient pas. Et en plus, lorsque l'on commet des violences, généralement, on tue quelques personnes, à part quelques cas particuliers, mais lorsque l'on est complètement sous l'emprise des vues et des conceptions et des croyances, et qu'on en a le pouvoir, là, on peut tuer les gens par millions, en fait. Ou endoctriner les gens par millions, qui vont à leur tour se mettre à commettre des actes négatifs de violence, de viols collectifs, etc., sous l'emprise de l'idéologie qu'on leur a transmise. Voilà pourquoi, en fait, le plus grand poison, les plus grands empoisonneurs de la société humaine sont justement tous ces religieux, tous ces politiciens, en fait.
Pouvez-nous dire précisément quelle est la différence entre l'indifférence et le détachement ?
L'indifférence est une attitude qui est enracinée dans l'ignorance, et le détachement est une attitude qui est enracinée dans l'absence de désir, en fait. Donc, lorsque nous sommes indifférents, c'est que nous ne prêtons pas du tout attention à ce qui se passe, et lorsque nous avons une attitude détachée, c'est qu'au contraire, nous prêtons précisément attention à ce qui se passe, et nous ne développons pas d'attachement à l'égard de ce qui se passe parce que nous sommes justement attentifs. Ce sont deux attitudes qui sont en fait totalement opposées.
Est-ce que vous pouvez nous fournir la définition et une brève explication de chacun des 10 kilesas, ce qu'on appelle les impuretés mentales ?
Oui, il y a essentiellement 10 éléments qui constituent les polluants qu'on appelle les polluants de métal. Ils se répartissent en deux catégories, ce qu'on appelle les inférieurs, ce qu'on appelle les supérieurs. 5 pour chaque catégorie. Donc, les premiers sont le fait d'avoir des vues erronées, des conceptions, des croyances, quelles qu'elles soient d'ailleurs. En particulier, ici on entend la croyance dans le moi, ou la croyance dans le soi, ou la croyance dans l'en-soi. Croyance qu'il y a quelqu'un qui habite ce corps, ou qu'il y a quelqu'un qui régit cet esprit. Donc ça c'est la première. La deuxième c'est le doute quant à l'enseignement du Theravada, et la capacité que cet enseignement a de pouvoir amener les êtres à l'éveil, et doute sur la loi de l'action, de l'activité, doute sur la possibilité de se libérer de la souffrance, etc. Troisième, c'est la croyance dans l'efficacité des rituels, donc la nécessité de pratiquer un certain rite religieux, un certain rituel, comme on le voit dans toutes les religions. Ça, c'est un polluant qui est très actif et très 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 répandu dans ce monde. Ensuite, donc ces trois polluants-là sont éliminés lorsque on fait l'expérience de l'éveil pour la première fois et que l'on atteint ce qu'on appelle le stade de ceux qui entrent dans le courant, Sotapanna. Ces trois polluants étaient complètement éliminés par eux. C'est pour ça que le Sotapanna ne se livre à aucun rite religieux, par exemple. Que, bien entendu, ils ne doutent pas dans la qualité de l'enseignement. Et ils ont totalement éliminé la croyance dans le moi ou dans le soi. Ensuite, les deux polluants qui suivent sont le plaisir, le désir, lié au plaisir des sens. Et enfin, la colère, l'aversion, le rejet de ce qui est déplaisant. Ces deux polluants sont éliminés seulement lorsqu'on a atteint le troisième stade, c'est-à-dire lorsqu'on a fait l'expérience de l'éveil. Une troisième fois. La deuxième fois, ça ne change pas tellement grand-chose, si ce n'est que c'est censé les affaiblir. Donc, celui qui atteint le troisième stade, qu'on appelle Anagami, est libre du désir, et il est libre de la colère. Et Bouddha dit de lui qu'il a atteint le bonheur parfait dans ce monde. Ensuite, il reste les cinq polluants suivants, supérieurs, qui sont éliminés uniquement par celui qui atteint le quatrième stade, c'est-à-dire qui a fait l'expérience de l'éveil au moins 4 fois, qui est arrivé à la libération complète, à la fin complète de tous les polluants. Et les 5 suivants sont éliminés d'un coup. Il y a le désir de faire l'expérience des consciences divines, dites formelles, qu'on appelle les jhana, ou les jhana formelles. Le désir de faire l'expérience des consciences divines informelles, qu'on appelle les jhana informelles. Qui sont des consciences extrêmement subtiles, bien sûr, ce sont les consciences divines, et que l'anagami, donc, celui qui est arrivé au troisième stade, dont il n'a pas éliminé, en fait, le désir de faire l'expérience. Ensuite, il y a l'agitation mentale, qui n'est pas, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, l'afflux des pensées, c'est simplement le fait que le mental tente à papillonner, en fait, dans les différents objets qui se présentent à la conscience, le mental tente à papillonner, à se fixer comme ça sur tous ces objets, de façon incohérente. Il y a ensuite l'orgueil, qui peut se manifester de plusieurs manières. Il y a 3 manières de se manifester de l'orgueil. La manière grossière, qui est l'orgueil, c'est-à-dire la conviction qu'on est supérieur aux autres, ou qu'on a des qualités supérieures aux autres. Il y a ensuite ce qu'on appelle la modestie ou l'humilité, qui est la sensation qu'on est en fait inférieur aux autres, ou qu'on a des qualités moins développées que les autres. Et il y a ensuite l'orgueil par égalité, c'est-à-dire l'égalité dans la perception que l'on a de soi. On se perçoit égal aux autres. Ensuite, il subsiste le dernier des 10, qui est l'absence de connaissance, en fait, de la réalité intrinsèque des phénomènes. L'absence de connaissance de ce que les choses sont vraiment en réalité. seul celui qui a atteint le dernier stade, c'est-à-dire le Bouddha, l'Arahanta, celui qui est pleinement libéré, a éliminé ce dernier et ultime polluant du mental. Ces 10 polluants font que les êtres tombent en rond, en fait, surtout ceux du bas, bien sûr, les 5 du bas, font que les êtres tombent en rond dans le cycle des morts et des renaissances, qui le font depuis des temps immémoriaux, et que tant qu'ils n'auront pas rencontré l'enseignement de Bouddha, c'est-à-dire le Theravada, ils continueront encore de le faire pendant des temps incommensurables.